Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, une émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire. À la technique et à la réalisation, toujours ma complice Tiphaine. Bonjour Tiphaine, comment allez-vous? Et votre serviteur André Satenza. Aujourd'hui, nous recevons un sociologue, Michel Billet. Michel, bienvenue à Esprit Occitanie.
Bonjour, merci.
Vous êtes sociologue, vous êtes spécialisé dans les questions relatives aux handicaps et à la vieillesse. Vous avez été également très actif comme directeur adjoint à l'IRTS, Institut Régional au Travail Social à Poitiers. Vous êtes membre de la Commission de Droits et Libertés de la Fondation Nationale de Gérontologie et vous êtes également membre et vous participez à une commission de l'espace de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer qui touche bien entendu beaucoup de nos compatriotes. Vous avez publié beaucoup d'ouvrages. Vous êtes très actif, mon cher Michel. La tyrannie du bien vieillir, ça commence bien. Peut-être que tout ira bien quand on sera vieux. La société malade d'Alzheimer. Alors là, on dirait que c'est une question tabou. Lien conjugal et vieillissement. On pourrait peut-être y ajouter, mais peut-être vous verrez, la question de la sexualité des vieillards.
Volontiers.
Et puis, vous avez abordé et écrit d'autres ouvrages, en tant que co-auteur, très bon dictionnaire, impertinent de la vieillesse, et puis La chance de vieillir. Votre ouvrage Vieillir comme le bon vin, pour une vieillesse effervescente et pétillante. Eh bien, vous nous présentez cette comparaison de la bonification, prendre peut-être de la bouteille, arriver au bon âge, plaisir de vivre, un verre avec modération. J'étais en train de me poser cette question, Monsieur Billet, cher Michel, est-ce que le soin dans notre pays est devenu un luxe? Je vous pose cette question parce qu'au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans ce scandale d'un certain nombre de groupes dits financiers qui traitent des maisons de retraite, je n'ai pas envie de leur faire de la publicité, on a l'impression que le soin est devenu un luxe dans notre pays. On a de l'argent, on sera peut-être bien pris en charge, on n'a pas d'argent, il faut éliminer les vieillards.
Et le scandale tient sans doute au fait que même avec de l'argent, même en payant très cher, on est bien obligé d'observer, au terme de tout ce que l'on peut lire, depuis longtemps déjà, mais tout est actualisé par la sortie récente de cet ouvrage « Les Fossoyeurs », on est bien obligé d'observer que même avec de l'argent, la qualité de l'accompagnement et des soins est très largement insuffisante, pour ne pas dire carrément absente. Alors, j'essaie de dire la qualité de l'accompagnement et des soins pour faire exprès de ne pas employer l'expression qui devient omniprésente, la qualité de la prise en charge. Non, je ne suis pas une charge. D'accord, je suis vieux, demain je le serai encore un peu plus, encore faut-il que je ne sois pas mort pour être demain un peu plus vieux. Et alors, je serai vieux, d'accord ? Non, je ne suis pas une charge. Non, je ne serai pas une charge. Et je voudrais avoir le culot d'affirmer, non seulement je ne suis pas une charge, je suis une chance. Ma vieillesse est une chance pour moi qui vieillis.
Et pour les autres.
Et oui, pour les autres, et j'ose le dire comme cela. J'ai la chance de voir mes petits-enfants grandir, mais ils ont, eux, la chance de voir un grand-père vieillir, et permettez-moi de le dire, pas n'importe quel grand-père.
Un grand-père qui est en forme, Michel, c'est ça.
Oui, et qui est en forme, en tout cas globalement. Mais demain, je serai moins en forme, je serai plus âgé, je serai... Et alors, une charge ? Non, parce que, après tout, il se pourrait que tout simplement, nous ayons à regarder non seulement ma vieillesse, mais nos vieillesses collectives, comme une chance qui nous est donnée à nous, société française contemporaine, parce que cette vieillesse, elle est l'occasion d'échanges multiples, de toutes sortes, de toute nature. Et s'il y a échange, alors il y a enrichissement, mais au terme le plus noble, évidemment, que l'on puisse donner à ce mot, enrichissement pour la société tout entière.
Vous avez raison de dire, ce n'est pas la qualité de la prise en charge. Les personnes dites vulnérables ne sont pas des fardeaux.
Non.
Je crois que ce n'est pas sémantique, en tout cas pour ceux qui travaillent dans le social et médico-social.
Et oui. Et oui.
Mais bien nommer les choses, c'est important pour que des professionnels puissent changer de représentation et de regard.
C'est Hannah Arendt qui nous souffle dans l'oreille. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Pardon, c'est Albert Camus. Excusez-moi. C'est Albert Camus.
Mais on reviendra parce que Hannah Arendt a parlé également
important.
De la vieillesse.
Mais c'est tellement important.
Ce n'est pas nouveau dans la société humaine. En préparant cette émission, mon cher Michel, et en parcourant votre livre, qui est très fourni avec d'autres auteurs, « Vieillir comme le bon vin », ici et là, on est allé voir du côté de Simone de Beauvoir, qui parle bien entendu de la vieillesse, comme cette nouvelle vulnérabilité qui doit être peut-être une force. Cicéron, qui parlait déjà de la vieillesse. Donc ce n'est vraiment pas nouveau, cette affaire de la vieillesse.
Bien sûr.
Je suis allé voir aussi, mais peut-être en avez-vous souvenance, mon cher Michel, du côté du grand économiste Alfred de Sauvy, qui disait également que les vieillards, la société, s'organisait pour éliminer les plus faibles. Alors, dans la situation où nous sommes, est-ce qu'il faut éliminer les vieillards ? Je le dis comme ça parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de la provocation, mais est-ce que c'est un sujet de société ? Est-ce que c'est un vrai débat dans la société ? Est-ce que nous devons nous poser la question de comment nous allons soigner les plus faibles, les plus vulnérables dans notre société, comment notre démocratie va prendre soin des plus faibles? Est-ce que c'est cela la question?
Alors, question gigantesque, immense, complexe. Vous citez Alfred Sauvy, merci. C'est à lui que l'on doit l'expression « vieillissement de la population », par exemple. Bon, et il observait le vieillissement de la population, mais il l'observait au début du XXe siècle, évidemment, en disant « attention ! Si nous ne faisons rien, le vieillissement de la population posera problème, deviendra problème. » Ok, d'accord.
Un ouvrage, je le cite, j'ouvre les guillemets parce qu'il faut faire attention, je ne voudrais pas dire, je ne dis rien, je ne cite que de la ségrégation de l'action sociale, la société des plus faibles, par Alfred Sauvy, je cite, « Nous sommes dans une sorte d'hypocrisie sociale, l'extermination moyen radical de se débarrasser d'eux, lorsqu'ils sont jugés indésirables, et alors devenus une sorte d'institution aux formes multiples, on le fait de façon hypocrite, etc. etc. » Donc il y a un vrai problème. Alfred Sauvy, déjà dans les années 50, dit « c'est un problème, la société vieillit, qu'est-ce que nous mettons en place, comment la société, comment nos contemporains vont penser, bien entendu, le soin pour les plus faibles, pour les plus... Et donc le terme c'était les plus faibles, hein. On ne parlait pas de vulnérabilité, c'était les plus faibles.
Oui, les plus faibles. Et les vieux, les plus vieux de nos concitoyens font partie de ces faibles, de ces plus faibles. Évoquer ce que vous évoquez à l'instant me renvoie, parce que c'est ma culture d'origine, c'est comme ça, me renvoie à la citation d'un texte biblique, Prière d'un vieillard, psaume 71, je cite, « Je suis une question pour beaucoup, dit le vieillard. » J'aime beaucoup cette phrase, « Je suis une question, mais nous avons fait de la question un problème. » La question, gardons-la ouverte, elle nous invite à réfléchir, elle nous invite à nous ouvrir à l'autre, elle nous invite à nous ouvrir à ce plus faible vers lequel... Parfait. Mais si cette question, nous la transformons en problème, Alors il va falloir la refermer, résoudre le problème, apporter une solution, une réponse, un machin, un truc. Terminé. Et c'est fichu. Dès l'instant où nous fermons les questions qui pourraient nous faire réfléchir, alors il y a peu de chances pour que nous devenions intelligents.
On parle beaucoup, alors je me demande si c'est une option idéologique, si c'est des positions fermes, s'il y a eu une véritable réflexion autour de cette question. C'est l'éthique de l'autonomie. On a l'impression qu'il y a une compétition pour être autonome. Tout le monde doit être autonome, alors que l'on sait que quand on est vulnérable, quand vient la maladie, vous connaissez l'Alzheimer, vous savez bien que parfois ces personnes-là sont dans leur chambre, sont dans des unités dites fermées parce qu'il faut les protéger. Parce qu'ils peuvent fuir, parce qu'ils ne savent pas où ils sont, etc. Donc, autonomie, j'ai l'impression, encore une fois, qu'on nous bassine avec cette question et qu'il y a donc une compétition. Si vous n'êtes pas autonome, vous n'existez pas. On nous invente aussi, ici et là, qu'il faut peut-être soit inventer, soit trouver l'EHPAD de demain, ou des résidences seniors, du logement diffus. On entend beaucoup de choses, c'est souvent pas très sérieux quand même tout ça.
Alors, là encore, de quoi parlons-nous quand nous parlons d'autonomie ?
Oui.
Il nous faudrait nous ressaisir de ce terme, d'abord pour comprendre que nous ne pouvons pas penser l'autonomie sans une relation d'interdépendance. C'est dans la relation avec l'autre que l'enfant devient autonome. Enlevez l'autre, détruisez la relation et l'autonomie ne viendra jamais. Premier élément. Deuxième élément, la racine même du mot nomos, la loi, auto, soi-même. On est en Grèce. La racine même du mot est remarquablement intéressante. Quand vous ouvrez le dictionnaire Larousse, par exemple, vous trouvez autonomie, deux points, je cite, faculté de se comporter selon ses propres lois. Ah oui ? Alors, s'il s'agit d'un peuple, d'accord, pour un peuple, effectivement, autonomie, on a connu par exemple la crise de l'autonomie pour l'Algérie, pour les anciennes colonies, pour... D'accord. Faculté de se comporter selon ses propres lois. Il s'agit d'élaborer la loi, de l'instaurer et ensuite de la faire appliquer. D'accord. Mais pour une personne, il ne s'agit pas de se comporter selon ses propres lois. Ou alors ça voudrait dire que l'autonomie, c'est un phénomène, c'est une pathologie extrêmement grave qu'il faudrait soigner d'urgence. Non, je ne me comporte pas selon mes propres lois. En revanche, autonomos, auto. Faire sienne la loi au point de pouvoir s'y conformer. Ah, d'accord. Au point, l'intégrer, faire sienne la loi, l'intégrer au point de. Et là, nous avons la distinction, et je pense à un philosophe qui s'appelle Didier Marx, avec lequel j'ai le plaisir à travailler de temps en temps. C'est lui qui m'a ouvert l'œil là-dessus. Il me dit, attention à ne pas confondre autonomie et automobile. C'est-à-dire à ne pas confondre la faculté de décider pour soi-même et la faculté à faire seul un certain nombre de choses de la vie quotidienne. Se déplacer, préparer un repas, etc. Il se peut que je perde la faculté de me déplacer, la faculté de me laver, de m'habiller, que je ne puisse plus, que je sois constamment en dépendance de mon environnement ou d'un appareil, d'une machine, ou d'un médicament, d'un produit, il se peut que je devienne dépendant, et pour autant, vous n'avez pas à me déposséder de mon autonomie au motif de prendre en charge, pour reprendre l'expression détestable, au motif de prendre en charge ma dépendance.
Alors on entend pour le handicap ce terme autodétermination. Est-ce que tous nos aînés, en fonction de la maladie, en fonction des pathologies malheureusement, parce que c'est une bonne nouvelle, on va mourir de plus en plus vieux.
Oui.
C'est quand même un progrès.
Oui.
C'est un progrès de la médecine.
Oui.
C'est un progrès parce qu'on se nourrit mieux. C'est un progrès parce que la science a avancé, parce qu'on est
évolution
mieux logé.
Évolution des conditions de travail, de logement.
Oui, bien évidemment. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et pourtant, on sait qu'on risque d'avoir des pathologies qu'à 90 ans, 91 ans, 94 oui. ans, 101 oui. ans, il y aura des difficultés à pouvoir vivre et donc on sera dépendant.
Y compris des troubles neuroévolutifs
bien
qui
évidemment.
Pourraient m'amener à ne plus pouvoir décider pour moi-même
la perte,
parce que j'aurais perdu les repères, ouais. j'aurais perdu la faculté de me référer à ce qui a fait mon histoire. Mais dans ce cas-là, vous qui m'accompagnez, vous qui me soignez, vous qui m'entourez, vous qui m'aimez, souvenez-vous de qui je suis, de qui j'ai été. Et parce que vous vous souvenez de qui j'ai été, vous êtes encore en mesure de m'accompagner en belle loyauté par rapport à ce que vous savez de ce qui avait donné du sens à ma vie et qui peut-être lui donne encore du sens. Il me semble que là, on a une clé pour accéder à ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la bientraitance. Alors si c'est ça la bientraitance, je m'en réjouis et je la demande pour moi-même.
Alors comment respecter, comme vous dites cela, Michel Billet, comment respecter la dignité des personnes en situation de dépendance ? C'est une vraie question.
Oui.
La dignité, ça ne se négocie pas, ça.
Non, ça ne se négocie pas. Je suis au fond. Plus ça va, plus je vieillis et plus je suis au fond persuadé que, contrairement à ce que l'on nous a quelquefois glissé dans l'oreille, nul ne perd jamais sa dignité. Mais je perds éventuellement ma capacité à reconnaître la dignité de l'autre à cause de ce qu'il est devenu, à cause de ce qu'il a dit, à cause de ce qu'il a fait, à cause... Il se peut que je perde ma capacité à lui reconnaître sa dignité. Pour autant, l'a-t-il perdu ? Au fond, je ne le crois pas.
Alors, comment est né ce livre, Vieillir comme le bon vin, pour une vieillesse effervescente et pétillante ? Vous vous êtes trouvé une bande de copains autour d'une bonne bouteille, avec modération,
oui,
et
c'est...
vous avez dit, oui, il y a de la bonification chez les vieux.
Voilà, oui. Alors, la coïncidence de plusieurs, je dirais, de plusieurs réflexions. J'ai cité tout à l'heure Didier Martz, philosophe et complice avec lequel nous avons coordonné cet ouvrage. Oui, il y a très longtemps qu'on travaille ensemble, etc. Et franchement, lui, il habite à Reims. C'est pas détestable de faire péter le champagne.
Ah non,
il
vraiment.
Sait le faire, il le fait bien. Et d'accord. Et puis, la coïncidence d'un certain nombre de rencontres, de réflexion et de texte. Allez, je vais en prendre un. Souvenez-vous, Aznavour, lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ses nuits blanches, lorsque l'on voit, loin devant soi, rire la vie, brodée d'espoir, riche de joie et de folie, il faut boire jusqu'à l'ivresse, sa jeunesse, car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe. Boire, boire sa jeunesse. Qu'est-ce que c'est que cette expression ? Boire la vie. Alors on dira par ailleurs dévorer. Oui, mais qu'est-ce qui se passe ? De quoi ça parle, ça ? Quel est donc ce rapport entre ce que l'on boit de meilleur et ce que l'on vit peut-être de meilleur ? Le vin, alors vieillir comme le bon vin, ouais, en plus ce vin qu'il faudrait faire vieillir, enfin un peu, enfin peut-être pas trop, enfin encore un peu, allez, ouvrons toutes ces questions.
Vous avez cité tout à l'heure Aznavour, un grand maître de la chanson française, mais je vous propose La Vieille, écoutons Reggiani.
Superbe.
C'est pas demain, demain la vieille, que tu reverras tes garçons qui sont partis de la maison. Sixième étage, vu sur la cour, pour les sourires et pour l'amour, il fallait repasser la veille. tant et tant d'années ont passé, nous avons oublié la vieille. La vie était une merveille. Et comme les autres entre deux âges, j'ai perdu mon livre d'images. Alors, comment ça le passé? Je ne sais pas pourquoi ce soir je me demande dans quel jardin tu dors, la vieille, au bout de ton voyage. Dans quel jardin tu dors, sous quel paysage? Ma vieille, ma pauvre douce. Julien est chasseur en Afrique, Pierre je ne sais quoi en Amérique. On s'écrivait de temps en temps. Je crois qu'ils en ont fait de belles. Et moi, moi il y a beau temps que je n'ai plus de mes nouvelles. J'ai eu des femmes et des idées, la chance à mon cou s'est pendue. Elles m'ont suivi, elles m'ont quitté. J'ai fait la guerre, je l'ai perdue. Longtemps j'ai eu de l'insolence, et puis je vieillis en silence. Je ne sais pas pourquoi ce soir je me demande dans quel jardin tu dors, la vieille, au bout de ton voyage. Dans quel jardin tu dors, sous quel paysage, ma vieille, ma pauvre douce. Je ne sais pas pourquoi un soir dans une chambre on n'a plus l'habitude. Alors soudain le cœur s'étonne de cette solitude qui vient comme l'automne. Ma vieille, ma mère, ma douce.
Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, aujourd'hui en présence et mon invité Michel Billet, qui a publié avec Didier Mars, un complice, un ami de longue date, philosophe, vous-même Michel, sociologue, « Vieillir comme le bon vin, comme le bon vin pour une vieillesse effervescente et pétillante ». Vous élaborez des propositions et je sais, mon cher Michel, que vous fréquentez, comme on dit, les salons dorés de la République. Des ministres vous interpellent, parfois vous invitent, vous participez à de nombreux colloques, vous publiez régulièrement, y compris des tribunes. Il faut transformer ce système, il faut le modifier, il faut peut-être inventer l'EHPAD du XXIe siècle, ça tombe bien, nous y sommes. Pour vous, monsieur Michel Billet, quels sont les thèmes majeurs qu'il faudrait aborder aujourd'hui? Si vous deviez faire un plaidoyer pour les présidentielles et envoyer cela aux candidats à la présidence de la République, vous les avez en face, c'est le moment, ils vous écoutent, vous diriez quoi?
Alors je dirais...
Quelle est l'urgence?
L'urgence, c'est certainement d'inviter nos concitoyens à une révolution culturelle qui consiste à changer le regard disqualifiant que nous portons sur les vieux, sur tout ce qui vieillit d'ailleurs, au point que même les œnologues aujourd'hui, je fais ce petit clin d'œil au bouquin, que même les œnologues aujourd'hui ont tendance à vous dire « Oh, vous savez, n'attendez pas trop parce qu'il ne s'arrangera pas en vieillissant. » Donc, voilà. Même les œnologues nous disent « Allez, vous savez, pendant qu'il est jeune... »
Il faut consommer de suite.
Il faut consommer. Consommer, consommer. Voilà. Alors, au fond, si je n'avais qu'un message à faire passer, je dirais à nos politiques que ce nécessaire changement de regard sur la vieillesse ne pourra s'effectuer que si nous sommes nombreux à accepter de regarder l'argent pour les vieux, non pas comme une charge, mais comme un investissement, nécessaire investissement. Permettez-moi un tout petit exemple.
Mais je vous en prie.
On parle beaucoup des EHPAD aujourd'hui. Je vais faire exprès de ne pas prendre l'exemple de l'EHPAD. Je vais faire exprès de prendre un exemple dans ce qu'on appelle le maintien à domicile et que je voudrais tellement que l'on appelle le soutien à domicile. Parce qu'évidemment, vous ne venez pas chez moi de la même manière si vous venez me maintenir et si vous venez me soutenir. Vous ne vous adressez pas à moi de la même manière, vous ne me saluez pas, vous ne me parlez pas, vous ne m'accompagnez pas de la même manière. Maintien, soutien. Moi, je voudrais que l'on arrive au soutien à domicile. Bref, imaginez dans un petit village, par exemple, je fais exprès de prendre un exemple dans le monde rural, mais on pourrait le décaler, le prendre en milieu urbain intense.
Ou périurbain.
Ou périurbain, évidemment. Donc, on est dans une agglomération rurale, il y a peut-être 500, 800, 2000 habitants. Allez, c'est pas grave. Une dame, elle vieillit, 85 ans par exemple, elle est veuve, espérance de vie différentielle, homme-femme, etc. Elle est veuve depuis déjà au moins 10 ans, bref, et elle vit seule. Elle n'a jamais beaucoup conduit. C'est son mari qui conduisait, enfin, c'était normal. Elle est... Bon, allez. C'est la culture d'une époque, c'est comme cela. Donc, et puis, à 85 ans, vous savez, toute
on est quasiment assigné à résidence, ce que vous êtes en train de dire.
Donc, elle est chez elle, elle va plutôt bien. Et pour qu'elle aille bien, une auxiliaire de vie sociale, et j'en profite pour les saluer, les auxiliaires de vie sociale, une auxiliaire de vie sociale vient chaque jour chez elle. Cette dame qui vit seule ne peut payer cette auxiliaire de vie sociale que parce qu'elle a droit à l'APA, aide personnalisée à l'autonomie. Je dis bien, elle a droit. Elle n'est pas bénéficiaire, elle est ayant droit. Et c'est pas pareil.
C'est pas la même
elle
chose.
Ne tire aucun bénéfice, elle a droit à l'APA. Grâce à cela, l'auxiliaire de vie sociale vient chez elle, alors je ne sais pas, deux fois par semaine par exemple, pour venir. Cette auxiliaire de vie sociale, elle achète une voiture. J'espère que ses frais kilométriques lui sont remboursés. Ce n'est pas toujours le cas, je le sais. C'est terrible, d'accord ? Mais j'espère que son temps de déplacement est pris en compte, et ce n'est pas toujours le cas, etc. Bref, donc elle achète une voiture. Eh bien, il y a donc un garagiste qui la lui vend et qui l'entretient. Bravo. Eh bien... Figurez-vous que le garagiste, il est marié, il a des gamins qui vont à l'école. Ça tombe bien parce que l'auxiliaire de vie sociale, elle, elle n'est pas mariée, mais elle vit en concubinage avec... Et elle a des gamins qui vont à l'école avec les enfants du garagiste. Et ben voilà. S'il y a un garagiste, c'est parce qu'il y a une vieille. Enlevez la vieille, il n'y a plus de garagiste. Allez, s'il y a un instit encore, et ben c'est parce qu'il y a une vieille. Enlevez la vieille, il n'y a plus d'auxiliaire, il n'y a plus de garagiste. Et ben, on ferme la classe.
Vous présentez là une économie dite circulaire, j'imagine.
Systémique, circulaire.
Systémique, circulaire.
Oui, et l'APA, à ce moment-là, est à considérer comme un investissement porteur d'emploi, porteur d'échanges économiques, bien sûr, parce que grâce à ça, il y aura des gens qui vont gagner. Oui, mais au-delà même des échanges économiques, évidemment, porteur d'une rencontre entre cet auxiliaire de vie et cette femme, et cette rencontre, elle est rencontre culturelle, et pourquoi pas affective. Alors, je ne dis pas que cet auxiliaire de vie sociale est en train de devenir la fille. Non, non, mais elles s'entendent bien. Et quand vous l'écoutez, cette dame qui parle, eh ben, Elle dit, oh, vous savez, elle est mon rayon de soleil. Mais qu'est-ce que vous voulez de mieux qu'un rayon de soleil? Et figurez-vous que la semaine dernière, elle regardait la vieille dame, elle regardait dans la cour devant sa petite maison, elle regardait le rosier et se disait, oh, il faudrait que je le taille, mais là, je ne vais pas pouvoir. Et l'auxiliaire de vie sociale lui dit, attendez, je vais demander à mon fils. Le fils revient avec sa maman pour tailler le rosier. Et la dame lui dit, est-ce que vous taillez à deux yeux ou à trois yeux? Alors le jeune homme la regarde, qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien voilà. Et voilà.
Donc,
l'échange,
il y a du transfert,
l'échange
et un
culturel.
Du changement. Vous dites, il y a un regard culturel, la question de la vieillesse doit être une question culturelle.
Évidemment.
C'est ce que vous dites dans votre
ouvrage. Sociétal, culturel. Alors oui, il y aura des échanges économiques, affectifs, etc. Un investissement porteur de développement culturel, porteur de tout, voilà, porteur de vie.
Mais il faut quand même revenir à une question terrible. On est dans un marché, nous sommes dans un marché peut-être régulé, et la question du modèle économique doit s'opposer. Je vous la livre, mon cher Michel, monsieur Billet. Trois systèmes aujourd'hui. Vous avez le public, et avec ce scandale des EHPAD, quelques voix se sont élevées en disant « il faut tout nationaliser ». Vous le savez de suite, on a la solution, la nationalisation. Vous avez un modèle dit de l'économie sociale et solidaire. C'est un marché, mais il y a de l'économie, mais elle est solidaire. Elle est circulaire également. Et vous avez un autre marché, qui est le marché dit capitalistique. C'est de la finance avec des fonds de pension, comme on a vu aujourd'hui, y compris au niveau, pour ces groupes français, au niveau international. Est-ce qu'on peut prendre une position claire, ferme? Est-ce que c'est à l'État ou est-ce que c'est au débat national de dire, quand on parle de santé, quand on parle de vulnérabilité, quand on parle de handicap, ce n'est pas un marché comme les autres. Et si ce n'est pas un marché comme les autres, certes, il y a le marché parce qu'il y a de l'économie, mais on ne peut pas jouer avec des fonds de pension, on
Absolument.
Ne peut pas jouer à distribuer des dividendes.
Absolument.
Et si les chiffres sont avérés plus de 13% en 10 ans, disant oui, il faut en effet payer le capital, mais quand même, là, il
alors
me semble que c'est totalement, que c'est totalement débridé.
Est-ce
que le débat, voilà, est-ce que le débat est là? Est-ce que les Français sont prêts à avoir ce débat, vous qui êtes un observateur de nos contemporains?
Je ne sais pas si les Français sont prêts à l'avoir, et c'est très difficile de le conduire avec discernement, avec suffisamment de délicatesse, etc. Pour ma part, il est clair que, évidemment, que l'État s'implique, ça me semble absolument indispensable. Et puis, que dans cette implication, l'État devienne partenaire du développement de l'économie sociale et solidaire, eh bien oui, j'aime beaucoup ce terme de solidarité. C'est une des manières de décliner la valeur républicaine d'égalité. Il n'y aura pas d'égalité et de fraternité si nous ne développons pas le principe de solidarité. Être solidaire, c'est se sentir lié et se reconnaître une dette à cause de ce lien. Se sentir lié, notamment avec ceux avec qui, évidemment, plus personne n'irait se lier. Parce que se lier aux riches, vous savez, pour ceux qui le peuvent, c'est pas trop difficile, mais se lier aux pauvres, aux plus pauvres, aux plus démunis, aux plus handicapés, aux plus... Eh bien oui, aux plus âgés de nos contemporains, aux plus fragiles, aux plus vulnérables, aux plus... Bien sûr. Alors, se reconnaître un lien, et à cause de ce lien, se reconnaître une dette dont nous avons solidairement tous à nous acquitter. Et là, je dirais que le principe fondateur de la sécurité sociale après la guerre, etc., reste à mes yeux absolument valable. Chacun contribue selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. Eh bien, j'espère que la crise que nous traversons sera l'occasion de redynamiser quelque chose, une approche de ce type-là, et par conséquent, de reconnaître à l'économie sociale et solidaire la fonction absolument déterminante qu'elle remplit dans la vie de nos contemporains sous forme de vie associative, sous forme de gestion d'établissements pour personnes handicapées, pour personnes âgées, pour ou de centres culturels, ou de quel que soit finalement l'objet, l'enjeu, mais là, le rôle que joue l'économie sociale et solidaire est absolument fondamental pour que les valeurs républicaines puissent être vivante dans la société où nous sommes.
Aujourd'hui, les familles portent plainte. Il va y avoir une action vraisemblablement en justice avec plusieurs personnes, plusieurs familles. Une avocate est à la manœuvre. Certains disent que tout le monde savait, mais on ne disait rien. Il y avait comme une sorte d'omerta sur cette question. Est-ce que vous avez senti, vous qui avez fréquenté les maisons de retraite, vous qui travaillez, étudiez, est-ce qu'en effet, vous pensez qu'il y avait un silence? On parle aujourd'hui de paroles libérées, y compris dans les EHPAD. Est-ce que c'est ce moment-là? Est-ce qu'il faut à tout prix un scandale? Est-ce qu'il faut à tout prix qu'il y ait, vous vous souvenez, Michel, de la canicule?
Oui, bien sûr.
La surmortalité.
Bien sûr.
Et quand on voit, ça va faire à peu près une quinzaine d'années, cette surmortalité, je me souviens des camions frigorifiques pour entreposer les cadavres, est-ce qu'on avait tiré les leçons?
Non.
Et aujourd'hui, on se pose la question et on revient.
Non.
Le scandale revient, c'est cyclique.
On n'avait pas
si tiré... on est un peu cynique.
On n'avait pas tiré les leçons.
Non.
En tout cas, pas clairement, pas suffisamment. On n'a pas été assez loin. Et puis, de nombreux, alors je vais employer un terme très à la mode, de nombreux lanceurs d'alerte, depuis très longtemps disent les choses. Je pense à des gériatres, le bouquin 12 gériatres en colère, mais je pense au travail de Robert Huguenot, de Michel Philibert à Grenoble, etc. Robert Huguenot, le fondateur de ALMA, Allo Maltraitance, bon, tout ça, ce travail gigantesque depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, moi-même, j'ose dire, je ne veux pas me faire passer pour... Mais il y a 25 ans, je me souviens avoir publié des articles sur ces sujets. Et rien. Non, il ne s'est rien passé.
La société n'est pas prête, c'est ce que vous dites.
Et je crois que la crise Covid a sans doute créé une situation qui a surpris, qui a... donner un coup de projecteur sur certains problèmes en amplifiant le problème et en plaçant des personnes, je pense aux familles, des personnes dans des difficultés auxquelles elles ne pouvaient pas penser. Par exemple, nous ne pouvions pas penser qu'une personne, qu'une famille... qui demande à un EHPAD d'accueillir son papa, sa maman, etc., âgés ou les grands-parents ou autres, eh bien, cette famille, les proches, ne pouvaient pas penser qu'une crise sanitaire viendrait provoquer un confinement qui ne pourrait être vécu que sur le mode de l'isolement. Et que pour isoler ces vieux, on allait les enfermer au point de les empêcher de garder une relation dont ils avaient tant besoin avec ce fils, cette fille, avec leurs proches, avec... Ça, je crois vraiment que nous ne pouvions pas le penser. Nous ne l'avons pas anticipé. Et il me semble que cette escalade-là, qui a entraîné un syndrome de glissement chez une multitude de personnes âgées, cette escalade a engendré des morts qui ont été non comprises, imprévisibles évidemment, mais incomprises et qui n'ont pas pu être accompagnées. Cela a mis tout le monde en souffrance, les vieux, les soignants, les accompagnateurs, les familles. Et c'est cette gigantesque souffrance qui est en train d'exploser au point qu'elle donne une résonance à cet ouvrage, résonance que peut-être il n'aurait pas eue 3 ans plus tôt.
Ce qui est terrible, c'est qu'il faut un article, un livre, une enquête, il faut un fait divers,
oui.
Il faut une émission à la télé, il faut le scandale, il faut qu'émerge, pourrait-on dire, des difficultés et des souffrances pour faire avancer le dossier dans nos pays.
C'est effrayant.
C'est un manque de maturité démocratique, non ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est sans doute un manque de maturité démocratique, un manque...
On ne peut pas aborder les dossiers tranquillement, froidement, avec sérénité, avec anticipation.
Bien sûr. Bien sûr. Un manque de lucidité, un manque de culture sur ce qui se passe dans la société contemporaine.
J'ai compté, je crois qu'on a produit en 10 ans une trentaine de rapports sur la question.
Mais bien sûr.
Ils sont tous disponibles sur la toile.
Mais bien sûr.
Difficile de tirer les leçons. Revenons juste un instant sur le personnel, les soignants, infirmiers, infirmières... des aides-soignantes, des animatrices, des cuisiniers, des personnes qui font le ménage, maîtresses de maison ou autres, sont-elles bien formées pour s'occuper du grand âge ? C'est aussi une question. Parce que est-ce qu'on a les bons gestes ? Est-ce qu'on est bien formé ? Est-ce que la formation est pointue, pourrait-on dire ?
Et vous posez là la question de la formation initiale. Et la
question de la formation continue, bien entendu,
tout au long.
Parce qu'avec le grand âge, quand même, les pathologies...
Et puis, tout évolue. C'est-à-dire que les vieillards accueillis aujourd'hui sont déjà très différents de ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Et si une aide-soignante ou une animatrice, un animateur socioculturel, un aide-soignant, une infirmière, un infirmier, n'ont pas actualisé le regard qu'ils portent... Sur ces vieillards, forcément, ce regard n'est plus adapté à ce que sont devenus les personnes accueillies. Alors, je vais prendre un exemple imbécile, presque, mais à Noël, moi, je veux bien écouter Tino Rossi, mais on n'est pas obligé d'écouter Tino Rossi.
C'est ça.
Il y a même des chansons très contemporaines qui ferait très plaisir aux plus âgés de nos concitoyens admis en EHPAD. Alors, Tino Rossi, pourquoi pas ? Oui, il y en a même à qui ça fera plaisir, mais ce n'est pas obligatoire.
Je connais des vieux qui écoutent le rap, il ne faut
mais
pas
oui,
oublier ça.
Mais bien sûr. Et il y a chez les rappeurs, vous avez raison, il y a, ou chez des chanteurs, des musiciens très contemporains, des chanteuses très contemporaines, d'accord, qui disent des choses absolument merveilleuses.
Nos représentations sur l'âge et la valorisation des capacités doivent être actualisées.
Oui. Il faut
nos représentations.
Et nous avons à apprendre. Et ça, ce n'était pas toujours présent dans les formations. Et c'est pourquoi il faut les actualiser, les remettre en question. Nous avons à apprendre, à regarder aujourd'hui, demain, non pas ce que vous avez perdu, mais ce qui vous reste. Et si je mets le projecteur sur ce qui vous reste, sur les capacités encore, alors d'autres diraient sur les capacités, sur... D'accord, si je regarde ce qui vous reste, alors ensemble, nous pourrions peut-être inventer pour demain une journée qui aurait un peu d'allure et que vous auriez plaisir à vivre.
Alors, on va inventer une autre petite journée, mais je vous propose une petite balade du côté du Brésil.
Avec plaisir.
Melhor é ser alegre que é ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É così como um sol dentro do coração. Mas se vuoi dare un samba alla bellezza, hai bisogno di un poco di tristezza, hai bisogno di un poco di tristezza, se no non è bello un samba, no. Se no è come amare una donna solo bella. E beh, una donna deve avere qualcosa in più della bellezza. Qualche cosa che piange, qualche cosa che ha malinconia. Un'aria di amore tribolato, una bellezza che viene dalla tristezza di sapersi donna, fatta soltanto per amare, per soffrire d'amore e per essere solo perdono. Fare un samba non è una barzelletta, chi fa samba così non è poeta. Il samba è preghiera, se lo vuoi. Samba è la tristezza fatta danza, tristezza che ha sempre la speranza, tristezza che ha sempre la speranza di non essere triste prima o poi. Prendi tutti quelli che vanno in giro scherzando con la vita. Attento, amico, la vita è una cosa seria e non ti sbagliare. Ce n'è una sola, due che sarebbe meglio, nessuno mi convincerà che ci sono senza provarmelo con prove definitive, cioè certificato rilasciato dal notaio del cielo e sottoscritto Dio e con firma autenticata. La vita, amico, è l'arte dell'incontro, malgrado ci siano tanti disaccordi nella vita. C'è sempre per te una donna in attesa, gli occhi pieni d'amore, le mani piene di perdono. Metti un poco d'amore nella tua vita, come nel tuo samba. Metti un poco di amore dentro un ritmo e vedrai che nessuno al mondo vince la bellezza che c'è in un samba. Il samba è venuto da Bahia e si è bianco di pelle in poesia, e si è bianco di pelle in poesia, è negro nell'anima e nel cuore, è negro nell'anima e nel cuore, è negro nell'anima.
Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Aujourd'hui, dans nos studios, Michel Billet, sociologue, vieillir comme le bon vin pour une vieillesse effervescente et pétillante. Et bien entendu, beaucoup, beaucoup de propositions. Je voudrais revenir à une des questions qui est tabou. Et vous connaissez, bien entendu, Michel, les travaux de Philippe Ariès sur la question de la mort et la question pour les vieillards, des soins palliatifs et de regarder la mort dans notre société. Est-ce que c'est aussi une problématique de la vieillesse? On a l'impression que la mort est devenue obscène. On ne sait pas regarder un mort. Notre grand-père ne meurt pas chez nous. Nos parents ne vont peut-être pas mourir chez nous. On ne les veille pas. Il y a une sorte de distance, et dans cette question de la mort, est-ce que c'est problématique, bien entendu, pour le vieillissement? Et bien évidemment, la question qui va avec les pathologies qu'on a évoquées, les soins et le soin palliatif, qui seront de plus en plus techniques, parfois de moins en moins humains, parce qu'ils seront trop techniques, parce qu'il y aura trop de substances à administrer. C'est une vraie question que nous devons nous poser.
Alors, ce n'est pas une question, c'est une multitude de questions. C'est là encore une question immense. Je ne vais donc, pour ma part, y apporter que quelques éléments. Alors, grâce à Philippe Ariès, et quelques autres évidemment après lui, ou en même temps, mais notamment grâce à lui, vous avez raison de le rappeler, nous avons pris conscience, je crois, du fait que nous vivons dans une société qui tend à évacuer la mort, la mettre à distance. Comme nous ne souhaitons pas mourir, nous ne souhaitons pas la mort, et nous ne voulons pas la voir, nous ne voulons pas, et nous avons tendance à ne pas l'accompagner, oui, la mettre à distance, à faire en sorte qu'elle survienne dans des lieux à l'écart de toute vie sociale, alors qu'il y a encore 70 ans, 60 ans, 50 ans, elle survenait évidemment au domicile, au cœur du village ou de la ville, etc. Bref, donc oui, une sorte d'évacuation de la mort. Mais paradoxalement, elle n'a jamais été aussi présente. Je veux dire que l'idée même de la mort n'a jamais été aussi présente et que on ose, aujourd'hui, à propos de la vieillesse, évoquer la légitimité d'une pratique d'euthanasie qui permettrait, bon ben alors évidemment, aux vieux de ne pas souffrir, et puis à la collectivité, quand même, de réduire les dépenses, parce que vous ne vous rendez pas compte tout ce que ça coûte, les vieux, etc. Et jusqu'à quand il va falloir... Voilà. Alors, après tout, si nous pouvions... On va jusqu'à... Je ne sais plus quel est ce philosophe américain qui propose... Je pourrais retrouver son nom, mais c'est au moment où je veux le citer que son nom m'échappe. Qui propose de distinguer la personne... L'être vivant est la personne humaine, alors je suis une personne jusqu'à ce que je ne le sois plus. Et si je perds la tête, par exemple, pour employer cette expression familière, à cause d'une maladie neuroévolutive, oui,
je ne suis plus une personne.
Voilà, je ne suis plus une personne. Si je ne suis plus une personne, alors ben vous pouvez bien décider de m'éliminer, puisque vous ne tuerez pas une personne. Évidemment, je suis humain, mais il n'y a plus de différence à ce moment-là entre... Bref. Donc, on voit que la porte s'ouvre pour que une réponse que j'estime, moi, personnellement, expéditive, soit de plus en plus accessible un peu partout. Alors, je voudrais être capable de respecter la démarche de ceux qui, pour mille raisons, demandent une aide au suicide assisté, par exemple, où je voudrais être capable de ne pas juger, de respecter, mais je voudrais surtout que la société dans laquelle nous sommes devienne capable de regarder l'autre encore vivant comme un être vivant d'abord.
Et toujours digne.
Et par conséquent... je voudrais que cette société se pose la question non pas de son utilité, mais de la fonction qu'il remplit. Il se peut que demain, grabataire, dément, pour employer une expression détestable, etc., il se peut que, bien sûr, je ne puisse servir à rien. Alors, si je ne sers à rien, eh bien, il se pourrait que, pour peu que vous me regardiez encore d'une certaine façon, je ne puisse plus remplir mon rôle, mais je puisse encore remplir une fonction. Ah bon ? Quelle fonction ? Celle du philosophe, justement. La fonction qui consiste à interroger mes contemporains sur ce que c'est que vivre. Cette question, cette fonction du philosophe, elle est fondamentale. Qu'est-ce que c'est que vivre ? Et si mes petits-enfants viennent me voir sur ce lit que je ne peux plus quitter, etc., et qu'ils vous posent la question, est-ce que c'est ça ? Est-ce que ça, c'est encore vivre ? Alors, je leur rends un service extraordinaire, le service qui consiste à les inviter à se poser les questions philosophiques les plus importantes. Quel est le sens de la vie ? Quel est le sens de la mort ? Je ne sais pas comment chacun de nous peut répondre à cela, mais la vie a-t-elle un sens, du sens, et a-t-elle du sens pour toi qui grandis, pour toi, quand tu me regardes-tu comme un être vivant ?
Je voudrais revenir à la formation, mais non plus du personnel dit infirmier et de soignante, mais des médecins et de gériatres, vous qui les fréquentez, vous qui les étudiez, vous qui discutez avec eux dans des divers colloques. Première question, est-ce que la gérontologie dans notre pays est une spécialité qui est appréciée ? Est-ce qu'il y a des jeunes internes qui vont naturellement vers cette spécialité de gérontologue, ou faut-il se battre, ou les forcer un peu la main? Et je vous dis cela parce que dans certains pays, avec des fondations de recherche et des EHPAD, sont souvent associés pour des travaux, et bien entendu d'observation, des EHPAD ou des établissements qui reçoivent donc des personnes vieillissantes avec de nombreuses pathologies, et des groupes de recherche. En France, on voit pas cela, c'est souvent, c'est séparé. Oui. Il y a bien entendu le CHU et puis il y a les EHPAD. La rencontre n'a pas lieu dans certains pays. Alors, on cite bien entendu les pays nordiques, mais il y a aussi en Espagne, on peut citer la fondation de la Caixa, où il y a des gérontologues qui travaillent avec des groupes de recherche, bien entendu sur des molécules, mais aussi sur des aspects cognitifs et comportements des personnes âgées, avec, bien entendu, des personnes qui sont dans le soin au quotidien. Alors pourquoi en France cette séparation? Est-ce que les gérontologues, c'est une bonne spécialité, une spécialité noble en médecine? Non, vous allez me répondre que non peut-être, Michel.
À ma connaissance, non. Ils sont peu nombreux.
Ils sont peu nombreux.
Les jeunes médecins qui choisissent volontiers cette spécialité.
D'accord.
Maintenant, un certain nombre d'entre eux la choisissent par défaut pour ou comme qualification complémentaire à une spécialité de médecine générale, si je puis dire. Et après tout, pourquoi pas? Et après tout, pourquoi pas? Alors, je suis bien obligé d'observer que à l'université, dans les facultés de médecine, l'enseignement sur la gériatrie est quand même portion très, très congrue. Hein. C'est réduit vraiment à très peu de choses. Ça ne veut pas dire que ces médecins qui s'orientent, ces jeunes médecins qui s'orientent vers ces spécialités ne le feront pas avec brio, élégance, etc. Mais évidemment, il est plus séduisant de s'orienter vers le transhumanisme que de s'orienter vers la gériatrie, bien sûr, bien sûr.
Donc il faudrait y compris travailler, nombreux philosophes,
mais
sociologues, travailler à ces questions-là.
C'est vrai en médecine, mais c'est vrai en psycho, c'est vrai en sociaux. Vous savez, les heures d'enseignement sur la gérontologie en fac de psycho ou en fac de sociaux, c'est peau de chagrin également.
Ah, d'accord, peu de spécialistes, vous le confirmez. Donc on voit bien qu'il faut un geste politique fort
absolument
pour aborder ces questions.
Et s'il n'y a pas reconnaissance et valorisation, revalorisation de ces métiers autour de l'accompagnement, de l'accueil, du soin des plus âgés de nos concitoyens, eh bien, nous ne dépasserons pas cet écueil. Enfin,
il y a un moment du soin, c'est Frédéric Vroom, également philosophe, le moment du soin, mais il dit aussi, attention, il faut peut-être se méfier du trop de soin. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant cela?
Je crois qu'il nous souffle dans l'oreille que nous avons à comprendre que nous devons regarder la vieillesse comme une phase de vie et non pas comme une maladie. Voilà. Non, la vieillesse n'est pas une maladie.
Pas une maladie, d'accord.
Même si elle s'accompagne parfois
de pathologie.
De pathologie. Mais de la même manière que l'enfance n'est pas une maladie, même si elle s'accompagne parfois de pathologies particulières. Mais nous avons tendance à confier l'enfance à la pédiatrie, et ça y est, on en fait une maladie, et à confier la vieillesse à la gériatrie, et on en fait une maladie. Non, la vieillesse n'est pas une maladie, même si, évidemment, il se peut que vieillissant, j'attrape quelques maladies, bien sûr, bien sûr.
Peut-être dernière question ou dernière réflexion avec vous, Michel. Le temps passe vite et c'était passionnant de parler avec vous autour de votre livre « Vieillir comme le bon vin ». Pour une vieillesse effervescente et pétillante. Vous parlerez tout à l'heure, vous animerez une conférence au sein de l'ANRAS dans
un bel
amphithéâtre. Donc j'espère que les personnes seront au rendez-vous. On parle de l'intelligence artificielle et pour introduire des robots, pour introduire un certain nombre de technologies dans les EHPAD. Qu'en pensez-vous de cette expérimentation? Est-ce que c'est des robots ou est-ce que ce sont des humains ou est-ce que ce sont les deux en même temps? Mais j'ai l'impression que, comme d'habitude, avec cette idée d'intelligence artificielle, on a l'impression qu'on a trouvé le Graal pour résoudre nos problèmes. Alors, vous, comme sociologue spécialiste de la question?
Vraiment, si ces robots sont et demeurent des outils au service des soignants, des animateurs, des personnes âgées, alors vraiment, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas...
Accueillir la technologie.
Mais évidemment, tant mieux. Moi, je suis très content de voir mes petits-enfants en visio, télécommunication, machin chose. Ben voilà, tant mieux. Maintenant, si cette technologie, si nous nous faisons croire que cette technologie peut remplacer l'humain, alors on se trompe. Tellement que je voudrais, moi, conclure cet échange que j'ai eu vraiment plaisir à avoir avec vous, en citant Aragon, il se voit vieillir, il se pourrait qu'il meure, il se tourne vers celle qu'il aime. Elsa, donne-moi tes mains pour l'inquiétude, donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé dans ma solitude, donne-moi tes mains que je sois sauvé. C'est la main qui sauve, pas le robot.
Merci Michel, merci Monsieur Michel Billet,
merci
vieillir comme le bon vin. Aux éditions RS, pour une vieillesse effervescente et pétillante. Vous êtes un vrai connaisseur, vous êtes un humaniste, vous l'avez démontré. Je suis très heureux de vous avoir invité.
Merci.
Et puis j'espère que votre livre va bien se vendre. Je le rappelle à nos auditeurs, une modique somme de 13 € aux éditions RS. C'était la courte page publicitaire autour de Sentinelle d'Humanité dans Esprit Occitanie. Merci et à très bientôt.
Merci à vous.